Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Chaque semaine sur InPower, je reçois des invités inspirés et inspirants, des chefs, des artistes, des entrepreneurs, des créateurs et des créatrices ou encore des philosophes. Et cette semaine, c'est une surfeuse professionnelle que je reçois. Originaire d'Anglette, dans le sud-ouest de la France, Pauline commence le surf très jeune, mais ne le considère pas comme une carrière potentielle, le monde du surf professionnel manquant à l'époque cruellement de représentation féminine. L'année 2009 marque un tournant dans la vie de Pauline. À 17 ans seulement, alors qu'elle est encore lycéenne, elle devient championne du monde junior de surf. C'est là que Pauline commence à réaliser qu'elle peut vivre de sa passion et de son rêve, celui de voyager à la recherche des plus belles vagues du monde. Mais derrière tout projet qui fait rêver, il y a la réalité des efforts, des sacrifices, des obstacles, et Pauline nous partage comment elle parvient à rebondir après des moments difficiles, aussi bien psychologiquement que physiquement. Un beau moment de réflexion et d'apprentissage que nous partage Pauline, tout en nous emmenant voyager avec elle en nous racontant ses compétitions à Hawaï, Sydney ou encore aux Jeux Olympiques de Tokyo. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur InPower, bienvenue, j'espère que le podcast vous plaira, et si ce n'est pas la première fois que vous écoutez InPower, vous pouvez désormais laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts, mais aussi sur Spotify, pour soutenir le podcast. Alors un grand merci par avance à toutes celles et ceux qui prendront quelques minutes pour le faire, je vous souhaite dans tous les cas à toutes et à tous une très bonne écoute, et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Pauline Addo, championne du monde de surf. Bonjour Pauline.
Bonjour.
Bienvenue sur InPower. Je suis très contente de te recevoir. Tu es la première surfeuse que je reçois sur InPower. Je spoil un peu, donc je vais te laisser te présenter de la façon dont tu le souhaites.
Ok. Donc, moi, c'est Pauline Addo. J'ai 30 ans. J'habite à Anglette, sur la côte basque, endroit où j'ai grandi aussi. Et je suis donc surfeuse professionnelle. Je fais du surf depuis l'âge de 8 ans. Et de façon professionnelle, depuis l'âge de 18 ans,
ouais.
C'est après mon bac que je me suis lancée. C'est mon métier et ma passion en même temps.
C'est dingue. Bon, je pense l'endroit où tu as grandi joue forcément. Est-ce que tes parents étaient un peu surfeurs ou...
Pas du tout. Alors mes parents, ils connaissaient vraiment rien au surf. On a découvert ce milieu en fait avec ma pratique.
Ouais.
Alors c'est sûr que la proximité avec l'océan, ça joue beaucoup parce que moi j'avais cette relation l'été en tout cas où j'allais beaucoup dans l'eau hein, finalement. J'étais très sportive petite, plutôt garçon manqué on va dire.
Ce terme est quand même très dommage. Je me permets de revenir dessus parce que tu vois direct les femmes sportives. On va leur dire garçon manqué, mais
ouais,
t'es trop pas un garçon manqué, t'es juste une femme qui aime le sport. Tu
vois c'est... Mais en fait, petite, je m'habillais vraiment comme un garçon.
D'accord.
Et tout. Mais c'est vrai que quand tu faisais certains sports à ce moment-là, en tout cas,
ouais,
encore
ouais.
Un peu aujourd'hui, moi j'ai voulu faire du foot. Et tu vois, ma maman, au début, quand elle m'a vu revenir avec la tenue du Barça, c'était pas dans ses codes. Quoi.
Ouais, tout à fait. Non, mais
c'est
dommage, on met les gens dans des cases. Ouais.
C'est ça. Et donc, c'est pour ça. Mais moi, en fait, quand j'utilise ce terme, c'est pas quelque chose dont.
Non, c'est pas péjoratif. Mais le terme en lui-même est moche. Garçon manqué.
C'est vrai. Oui, j'avoue.
Moi, j'essaye de déconstruire un maximum. Voilà, j'étais obligée de le mettre. Mais ouais, du coup, t'étais une petite fille hyper sportive et t'avais ce goût pour le foot. Et après, pour le surf, c'est venu direct après.
Il y a eu le hand, le foot, un peu de tennis. C'est le moment, tu sais, où tu cherches un peu ton sport.
Ouais.
Et le surf, ça a été de suite. Hyper ludique, l'élément, tu vois, l'océan, quoi.
Ouais.
Donc, ça m'a plu de suite.
Et tu pouvais continuer, du coup, tu en as fait au début une pratique un peu...
Loisir,
comme la plupart d'entre nous, peut-être, entre 8 et 18 ans. Et quand est-ce que tu as commencé à te dire que tu voulais t'y consacrer? Parce que non seulement, en France, c'est compliqué de se dire... Ok, je vais faire du sport ma vie parce que, tu pourrais nous en parler, mais il n'y a pas du tout les mêmes financements que peut y avoir dans d'autres pays. Mais en plus, le surf, alors c'est vrai que j'y connais encore moins, moi, dans ce domaine, sur les potentialités de carrière, de développement, etc. Mm. Mais j'imagine que ça n'a pas dû être une réflexion trop facile.
Pas du tout. Alors au début, même moi, j'aimais pas la compétition. Parce que j'arrivais pas à coller un peu aux critères, j'avais pas le niveau aussi sûrement. Ça a changé quand j'ai commencé à avoir un peu de réussite.
Ouais.
Et en fait, j'envisageais pas du tout une carrière. jusqu'au jour où j'ai été appelée en équipe de France junior. J'ai été au championnat du monde junior à Tahiti. Donc, tu vois, j'avais 13 ans. C'était
dingue.
Ouais, c'était exceptionnel. Enfin, tu vis...
C'est une expérience de fou. Ouais, ouais.
Donc j'étais à fond. Mais là, j'ai vu le niveau des Australiens, des Australiennes, des Américaines. Et on les mettait un peu sur un piédestal exactement, à ce moment-là, dans les discours que j'entendais. Et en fait, j'ai vu leur niveau. C'était des filles qui avaient 4-5 ans de plus que moi. Et je me suis dit, alors sans le verbaliser, parce que voilà... ça peut peut-être paraître prétentieux, mais je me suis dit, mais en fait, dans quelques années, je pourrais être à ce niveau-là. Et donc, c'est à partir de ce moment-là où j'ai vraiment... La petite graine, elle a commencé à germer, quoi. Cette idée de devenir pro, elle a commencé à grandir dans ma tête, sans le verbaliser, parce que... Bah, tu l'as dit, en fait, déjà, à ce moment-là, peu de femmes faisaient du surf en France, très peu de professionnels. Il y avait des pros, mais qui galéraient un petit peu, hein, vraiment, à vivre de leur sport. Donc, c'était pas vraiment une carrière qui était envisageable trop. En plus, moi, mes parents, ils étaient quand même, ils avaient ce discours un peu classique. Tant que ça va à l'école, tu fais ce que tu veux, mais il faut que ça aille à l'école. Les parcours un peu atypiques, ça faisait peur. Hein.
C'est vrai qu'on... En fait, je pense qu'il y en avait, mais qu'on les entendait moins. Oui. Tu vois, même si on n'a pas tant d'âge de différence que ça, je pense que t'as peut-être pas eu la génération réseaux sociaux quand t'étais ado, et ça fait quand même énormément la différence pour se rendre compte du champ des possibles, ou même les podcasts, les vidéos.
Parce qu'on
et
a
tout,
accès à tout genre d'histoires, de parcours de vie qui sont inspirants, et voilà, et tu te dis pourquoi pas moi.
Ouais.
Voilà.
Et toi, tu te les dis grâce à ces Américaines et ces Australiennes que tu as vues en fait, à Tahiti, tu penses que sinon, tu ne l'aurais peut-être pas envisagé
Ou alors peut-être plus tard, mais c'est vrai que ça a été un déclic. Et en fait, je me rends compte que petite... Alors encore une fois, je pense que ce n'était pas de la grosse tête, mais je me mettais... en tout cas, au niveau du sport, je me disais pas « Ah non, ça, je ne pourrais pas le faire. » Je me disais plutôt « Ah, mais ça... » Enfin, je pourrais y arriver.
Tu te challengeais. Hein,
ouais,
j'aimais ça.
J'aimais bien. Et donc voilà, je sais pas. Je me suis dit ça en fait. Ça m'a pas paru inatteignable. Et en fait, cette pensée, elle s'est un peu concrétisée 2 ans après, parce que je suis retournée à ces championnats du monde junior et je les ai remportés.
Ah ouais, bravo. À 15 ans du coup.
À 15 ans. Ouais. Et c'était énorme parce que. C'était le premier titre mondial pour une surfeuse française, un surfeur français même.
Ah ouais, ouais. Ah donc là, t'as un vrai record.
Et là,
tu as 15 ans en plus. Hein.
Ouais, bon, après c'est du junior, c'est du moins de 18. Mais du coup, ouais, c'était quelque chose...
Dit, ça devient possible.
Ouais, ça concrétise. Alors après, ça t'ajoute une pression aussi, parce que après ça, t'es attendu.
Ouais.
Mais c'est vrai que j'aimais bien ce challenge d'être outsider. De se dire, on est les Français, les Européens, on n'est pas une des plus grandes nations du surf.
Je vais leur prouver.
Mais ouais, voilà. Et puis, en fait, bon, derrière, on a été toute une génération à faire ça. Mais c'était excitant, quoi.
Ouais, j'imagine. Et c'était pas trop compliqué de gérer les cours avec. Parce que moi, je me souviens, je sais pas si j'avais participé à... Enfin, on avait vu une annonce, genre dans mon centre d'activité, de loisirs, de quartier, tu vois. Ça n'a rien à voir avec le surf, je le précise quand même. Mais c'est juste pour dire, voilà, comme tu dis, les voix un peu atypiques. Et il y avait une annonce de casting, je sais pas si j'ai déjà dit sur le podcast, je crois que j'ai dit une fois, mais... Et donc c'était une annonce de casting pour La Môme, donc tu sais, qui est aujourd'hui un grand film, mais à l'époque, je crois que c'est le film qui a un peu réveillé Marion Cotillard. Et il y avait marqué une description, recherche, jeune fille entre 8 et 13 ans, brune, aux yeux bleus, sachant chanter et tout. Et genre moi j'étais brune, j'avais 10 ans, je faisais la chorale, tu vois, et donc ça me correspondait grave. Et au début, ma mère elle était ah bah ça peut être cool et
tu
tout.
Donc, les cours.
Non mais alors au début c'était genre ça peut être cool. Au début genre j'ai postulé, j'ai envoyé, je sais plus, tu veux envoyer un dossier. Et en fait j'ai passé vraiment les étapes. Et genre, au moment où je sais pas, je devais être parmi les finalistes, et où on a reçu toutes les infos de tournage, je me souviens, c'était à Prague, et je devais juste louper 2 semaines de cours en janvier, ils m'ont dit non. J'étais genre en CE2 ou en CM1, tu vois, genre, on s'en fout, vraiment.
Oui.
Mais voilà, après, je leur en veux pas, je pense que j'aurais pas été une grande actrice, mais il y a vraiment cette peur de... Il n'y a pas ce truc de...
Ça va être
laissons sa chance, peut-être qu'elle va s'épanouir dedans, c'est trop dangereux, quoi. Mais bon, je pense que toi, peut-être, vu que t'as fait les compétitions, t'as prouvé que t'étais au niveau aussi, quoi.
C'est vrai que j'ai fait des compétitions jeunes et j'ai eu la chance d'avoir du succès jeune aussi. Donc ça rassure d'un côté. Mais c'est vrai que c'était un gros... c'est une inquiétude. Et c'était vraiment... tant que ça marche à l'école, tu pourras t'absenter, en gros.
D'accord.
Et du coup... Moi, j'ai eu beaucoup d'opportunités de voyager très jeune. J'étais en Australie, j'étais à Hawaï. Donc, comme je te disais, j'avais fait ces championnats à Tahiti. Quand je gagne un championnat du monde, c'était au Brésil. Enfin, c'était énorme pour une petite fille de mon âge.
Ah ouais.
Et donc, vraiment, j'avais envie de vivre ces choses-là. Donc, je m'assurais que ça roule nickel à l'école. Mmh. Et voilà. Bon, après, c'est... La scolarité, c'est que c'est un milieu, enfin je dis milieu, mais parce que ça convient ou pas des fois. Et moi, j'étais plutôt bonne élève. Et voilà, je jouais le jeu, j'allais voir les profs qui m'envoyaient les cours. Et c'est pour ça que j'ai pu faire tout ça, en fait.
Ouais.
Donc, je voulais pas que ça soit une excuse pour qu'on m'empêche de faire, de faire ces choses-là.
Ouais.
Voilà.
C'est puissant, et je crois qu'on en avait parlé dans un épisode avec David Laroche, où en fait, c'est un coach, tu vois, un peu de développement personnel, et il explique que, en fait, souvent, quand on dit « j'ai pas la motivation », c'est que c'est pas le bon rêve. Alors, j'ai pas envie de généraliser, mais c'est vrai que je trouve que c'est particulièrement vrai. Moi, je sais que quand je procrastine, c'est sur les trucs que j'ai pas vraiment envie de faire.
Ouais.
Et je pense que c'est ce que tu nous partages là, c'est qu'en fait, t'étais tellement motivée que même si les cours c'était pas ta passion, tu te donnais à fond, même plus, que les autres élèves pour compenser le fait que t'étais ailleurs. Et si ça avait été pour autre chose, tu te serais sûrement pas donné autant, quoi.
Ouais, non, c'est sûr. Mais j'étais, c'est toujours un peu le cas, mais je vivais surf, je mangeais surf, je pensais surf tout le temps, quoi. Et donc je faisais en sorte que tout se passe bien. Mais ça a été quand même des discussions avec mes parents. À un moment donné, en terminale, j'ai eu besoin de finir ma scolarité. Alors finir, je dis finir parce que j'ai été jusqu'au bac.
Ouais.
Et j'ai pas forcément poussé plus loin. Par correspondance, ça a été des vraies discussions au moment donné, à un moment d'entrée en sport-études. C'était plus restrictif, ça a été... Je comprends aussi que mes parents, ils étaient inquiets, un peu frileux sur certains trucs. Comme on disait, c'est des carrières qui ne sont pas communes. Alors, à côté, tu as les discours peut-être d'autres parents ou de profs, de gens. Mais comment vous allez faire? Elle va arrêter l'école. Mais quel dommage.
Ça
rassure pas. Donc, je me suis absentée beaucoup et ça s'est très bien passé au final.
Ouais.
Et puis derrière...
T'as ton bac.
Donc voilà, j'ai eu mon bac.
Ouais.
Alors très vite, je me suis... En fait, c'est marrant, une fois que j'ai eu mon bac, c'était vraiment l'objectif pour me dire après, je me consacre à fond au surf. Et donc à partir du moment où j'ai eu ce bac, pour moi, ça y est, c'était le surf. Et j'ai pas réussi à faire autre chose à côté. J'avais plus cette motivation, justement.
Ouais.
J'ai fait un peu de fac par correspondance, mais je devrais même pas le mentionner parce que...
j'ai dit ça en quelques semaines.
Voilà. Et je me suis consacrée à ça. Et puis ça a marché, donc je me suis épanouie dans cette vie-là.
Comment ça se passe le jour où tu as ton bac? Après, tu entres en... j'imagine que tu avais besoin de centre de formation vu que tu avais déjà remporté le championnat. Est-ce qu'il y a des écoles de training? Est-ce que direct t'enchaînes les compètes? Enfin, c'est quoi après ton quotidien? Tu passes d'étudiante à...
Alors, tu passes d'étudiante à Surfeuse Pro, entre guillemets. Alors, on est encadré par la fédération en sport-études jusqu'à 18 ans, mais après, on est un peu livré à nous-mêmes. Donc, c'est pas forcément facile à gérer. Il faut se construire un petit peu son staff. Puis, en même temps, tu décides de tout.
Ouais.
Donc, tu as besoin d'être cadré.
Ouais.
Mais c'est toi qui décides au final. Donc, c'est une situation un peu particulière. Il faut prendre un peu ses responsabilités aussi. C'est-à-dire, voilà, j'ai envie d'arriver là, mais pour ça, il faut que je travaille des choses. Il faut mettre ça en place. Mais c'est en même temps hyper formateur, tu vois, t'as 18 ans, tu te lances, t'as un projet, il faut y aller, quoi.
Ouais. C'est tôt pour endosser de telles responsabilités, enfin, quand tu dois choisir ton staff et tout, c'est...
Ouais, voilà, il faut voir avec qui tu travailles, comment tu t'entoures, faut accepter de dire, sur ça, j'ai besoin d'être guidée, faut que ça matche avec les personnes, il y a plein de... de paramètres.
Ouais.
Et puis à côté de ça, il faut aussi gérer l'aspect un peu plus, j'ai envie de dire, business, entre guillemets.
Ouais.
Parce que la saison de surf, c'est nous, personnellement, qui la finançons, en grande partie. Donc il faut arriver à trouver des ressources, des partenaires. Il y a un côté où tu gagnes des prize money, mais il faut... voilà, si tu ne fais pas une très grosse perf, malheureusement, ça te coûte beaucoup plus que ce que tu ne gagnes.
Ouais.
Donc voilà, tous ces aspects-là, gérer aussi la logistique, tous ces aspects-là, c'est des choses que, voilà, à 18 ans, boum, il faut gérer tout ça.
Ouais.
Donc après, évidemment, moi, j'étais bien entourée, ma famille, j'avais la chance d'avoir un partenaire qui me suivait à fond. Qui était,
Alors quand tu dis un partenaire, c'est dans la vie ou dans le surf ?
Alors, dans le surf. D'accord. Un partenaire, un sponsor, en fait.
Un sponsor, d'accord, ok.
Le partenaire dans la vie, ça a été un peu plus tard et ouais. Ça a été aussi hyper important. Mais oui, quand je dis partenaire, là, c'est plus sponsor.
Ouais, ok.
C'est ça.
Et ça, t'es allée les démarcher toute seule ou c'est eux qui peuvent aussi venir te contacter voilà, on a un qui représente
Alors, en fait, moi, comme j'ai eu des résultats assez jeunes, j'avais été approchée jeune
ouais.
Et on m'a beaucoup épaulée dans mon développement, en fait. Ils m'ont beaucoup accompagnée. Et après, comme je disais, il faut... Alors, tu peux avoir un partenaire qui te suit super bien, mais en général, dans une carrière, c'est comme tout, c'est des hauts et des bas. Hein,
ouais.
Donc, il faut aussi essayer de, à certains moments, d'aller en chercher. Donc voilà, moi, comme je te disais, des hauts et des bas. J'ai été suivie longtemps par une marque de surf. Après ça, c'est un peu moins bien passé. J'ai dû trouver d'autres ressources. Il y a des moments où je me suis posé des questions par rapport à ça aussi.
Ouais.
Parce que c'est vrai que c'est une passion, mais derrière, si financièrement tu t'en sors pas, c'est
ouais, ça vient un peu entacher la passion. Quoi.
Exactement. Voilà, s'il y a plein d'aspects, d'aspects à gérer au final.
Je me demande, même si à mon avis il n'y a pas de journée type, mais peut-être une semaine type pour toi, ça ressemble à quoi ? Alors si j'ai bien compris, en saison de surf et hors saison de surf.
Alors, oui et non. Alors, moi, je surfe toute l'année.
D'accord.
J'habite dans le sud-ouest, mais je surfe aussi l'hiver. Alors, tu te doutes que c'est un peu moins sympa quand l'eau est à 12 et la température extérieure, enfin, loin de zéro.
Ouais.
Je surfe toute l'année, donc moins l'hiver parce que physiquement, c'est plus difficile. Une semaine type, on va dire, je surfe quasiment une à deux fois par jour.
Okay.
Dernièrement, c'est plus une fois. Je fais aussi de la préparation physique, en moyenne 4 fois semaine.
Ouais.
Et en fait, j'articule, je fais vraiment en fonction de la météo.
C'est vrai que là, voilà. Vous êtes dépendant de la météo. Voilà, c'est un sport.
En surf, il y a des créneaux, en fait, en fonction de la marée, de la taille des vagues, la direction du vent. Donc voilà, je suis un peu toujours suivre les cartes pour me dire, tiens, ça là, il y a une fenêtre pour bien s'entraîner. Et donc, j'adapte en fonction de ça. Du coup, il faut être assez flexible.
Ouais.
Et après, ce que je fais aussi, c'est que je me fais vraiment un jour de repos par semaine où je ne m'entraîne pas. Ça, c'est quelque chose que j'ai eu du mal à mettre en place parce que, voilà, au début, où j'avais tendance à penser que plus t'en fais, mieux c'est. Mais finalement, quand tu as besoin de tenir une saison, que ce soit fatigue physique, fatigue mentale, il faut s'accorder, il faut un peu anticiper et s'accorder ces plages de repos aussi
ouais.
pour tenir sur la durée, quoi, être performant sur la durée.
Est-ce que tu es accompagnée par un coach ou tu t'entraînes toute seule ?
Alors en surf technique, je dis un peu, je fais du bricolage, c'est pas l'idéal, on va dire. J'ai pas un coach qui m'entraîne tous les jours à chacun de mes entraînements. On a la fédération qui met en place des entraînements, un suivi, mais pas quotidien. Et après, je travaille aussi avec un coach qui est en Australie, là, parce que j'aime bien leur méthode.
Ouais.
Donc, quand j'avais des compétitions là-bas, je travaillais avec lui, ou sinon un petit peu par visio aussi. Bon, là, ça fait 2 ans qu'on ne peut pas y aller, donc c'est
ouais.
un peu...
Ouais.
Qu'on n'a pas de compétition là-bas, quoi. Ça... un petit peu chamboulé mon organisation.
Ouais.
Mais voilà, donc ça c'est pour la partie surf. Après j'ai un préparateur physique.
Et pas mental, parce que je sais que parfois les sportifs ont aussi des préparateurs mentaux.
En fait, moi je vois une psychologue du sport.
Ouais.
J'ai aussi déjà fait de la... vu des préparateurs mentaux, c'est un peu différent. Enfin, il y a des gens qui font les deux.
Ouais.
Mais voilà, préparateur mental, c'est voilà, tu as une problématique, entre guillemets, tu vas chercher des outils, t'exercer pour essayer d'améliorer tes performances. Psychologue du sport, je trouve ça englobe un peu plus la personne dans son ensemble. Il y a l'aspect sportif, mais voilà, on est...
T'es un être humain,
voilà,
aussi, quoi.
Voilà, exactement. Ouais. C'est... Il y a tous les aspects de la vie qui finalement ont une incidence, ouais, sur, ouais, tout ce que tu fais.
Ouais.
Et moi, bah, j'aime beaucoup, en fait. Je suis assez branchée sur tous ces trucs.
Ouais.
Je ne suis pas en train d'opposer, tu vois, préparateur mentaux et psychologue du sport. Enfin, c'est moi,
c'est
je
complémentaire,
fais les deux,
en fait.
Exactement.
Ouais.
Mais bon, moi, j'aime bien tous ces aspects. Allez, essayer de chercher des solutions. Tu apprends vachement à te connaître, en fait.
Ouais.
Un côté introspectif que j'aime,
ouais,
beaucoup.
Ouais.
Et ouais, du coup, ce que j'apprends, entre guillemets, dans mon sport, je m'en sers énormément pour le reste de ma vie, quoi. Donc,
ouais, ouais. Et l'inverse, j'imagine.
Est-ce l'inverse,
que
tu peux peut-être nous
partager des outils qui t'ont aidé, ou alors un moment, tu vois, que tu as rencontré de difficultés. Et si, bah, justement, soit un préparateur, soit la psychologue du sport, t'as aidé à...
Ouais.
À le dépasser.
Bah, je vais prendre un exemple d'un de mes déclics, par exemple. Tu vois, bon, quand tu fais de la compétition, du sport, bon, après, d'autres domaines aussi, hein, mais tu sais, tu es très attaché, en fait, au résultat que tu,
oui,
vas faire, finalement.
Ouais.
Et tu t'es tellement dans cette bulle que... Alors moi, c'était mon cas, t'as tendance à penser que la qualité de ton résultat définit un petit peu ta valeur.
Ouais.
Alors que, enfin, c'est très destructif de penser comme ça, parce que voilà, tu peux gagner des compétitions, mais t'as aussi beaucoup de déceptions aussi à,
ouais,
côté.
Ouais.
Et moi, ça m'a fait pas mal de mal, notamment, ben, je pense que c'était en 2014 où j'ai eu une saison difficile. Et tu vois, à la fin de l'année, je suis un peu presque au limite du burn-out, parce que j'en viens à plus avoir envie de surfer, alors que c'est tout ce que j'ai eu envie de faire depuis toute petite. Et ouais, j'ai eu un déclic à ce moment-là, de me dire, voilà, ce fameux truc de... bah, tu es une athlète, mais tu es aussi... Bah, une petite copine, une femme, une personne, enfin, une fille. Il n'y a pas que ça,
ouais,
qui peut te définir, quoi.
Ouais.
Et donc, se prendre un peu de recul par rapport à ça, ça a été quelque chose de révélateur pour,
ouais,
moi.
Et ça t'a suffi de te le dire, ou t'as dû quand même, je ne sais pas, voyager, introspecter? Parce que bon, je pense que pas mal de gens sont dans ce cas-là, parce que,
ouais,
mine de rien, ça s'applique, je pense, à pas mal de domaines... professionnel ou personnel.
Ouais.
Donc ça peut être intéressant de savoir comment toi, peut-être, t'as réussi à... Parce que, enfin, comme tu dis, c'est
pas, on te le dit et claque.
Ben, ouais. Peut-être, hein.
Mais
à ce moment-là,
t'as cette prise de,
wow,
conscience. Ouais, non, t'as, ouais, cette prise de conscience. Mais après, je pense que derrière, il faut aussi avoir une réflexion un peu plus poussée et profonde, et de se dire, ok, je fais ça pour le résultat, mais qu'est-ce qui aussi peut m'apporter du bonheur, entre,
ouais,
guillemets,
ouais.
Et tu vois, moi, ça a été de me focaliser aussi sur ma performance, mais alors pas première, deuxième, troisième, plus qu'est-ce que je produis dans l'eau, comment je me comporte, quels choix je fais,
ouais,
est-ce que j'arrive, j'ai des objectifs, voilà, de niveau, tu vois, entre guillemets. Et ça a été, moi, de me focaliser un peu plus sur ça, de regarder un peu moins ce que faisaient les autres.
Mm.
Ça a été quelque chose qui m'a apporté un nouveau souffle et,
ouais,
un nouveau... nouvelle quête, entre,
ouais,
guillemets, tu,
ouais,
vois, dans,
ouais,
ma carrière. Parce qu'une carrière, c'est long. Et voilà. Donc ça a été...
Un moment un peu déclic. Non, mais c'est,
ouais,
c'est très intéressant. C'est vrai que, en fait, tu peux progresser... Et sans avoir forcément les résultats que t'attends,
mais
c'est,
ça, ouais,
c'est plus important de progresser dans l'absolu, quoi. Parce
mais
que
voilà, ouais, tu dis, voilà, j'ai donné mon max, j'ai travaillé. Alors, il y a des choses que je dois encore améliorer, mais je suis fière de ce que j'ai,
ouais,
fait, tu vois.
Ouais,
c'est,
ouais.
Ça, c'est en soi, c'est un accomplissement aussi.
Tout à fait.
Donc, voilà, moi, c'est
cet accomplissement-là que t'as choisi
ça,
de,
ouais,
te focaliser. Ouais.
Ça a été vraiment quelque chose qui m'a marqué. Après, ça veut pas dire que... Quand je gagne ou quand je perds, j'ai toujours les mêmes émotions, tu vois. Mais ça fait prendre pas mal de recul.
Ouais. Et justement, tu parlais de l'Australie ou même de Hawaï, Tahiti. Tu t'es jamais dit, si je vais là-bas, je vais progresser beaucoup plus ou les conditions. Enfin bon, vraiment, moi, j'ai l'image de l'Australie, genre « Hi, buddy », tu vois, du mec avec sa planche de surf sous le bras. Et puis, c'est un pays qui donne envie. Enfin, voilà, ouais. Tu t'es pas dit...
Pour m'y installer, tu veux dire?
Ouais, pour t'y installer, pour... t'y installer ou alors temporairement pour ta carrière, enfin...
Si, alors en fait, en grandissant... je peux me déplacer beaucoup et c'est vrai que oui, il y avait cette réflexion en moi qui se dit punaise, si j'étais australienne, si j'habitais en Australie, je pourrais m'entraîner beaucoup plus, j'aurais pas surfé dans le froid. Donc oui, il y avait ce côté-là, pas au point de me dire faut que je déménage,
ouais.
Mais voilà, je me disais il faut que j'aille faire des compétitions pour me confronter à ce niveau-là, faut que je puisse l'hiver m'entraîner sur d'autres types de vagues, tout ça. Donc oui, j'ai eu des moments où je me disais j'ai besoin de plus, tout ça. Mais après, voilà, parce que quand tu voyages, bon alors je voyais cet aspect-là. Mais aussi, je voyageais, je me rendais compte que chez moi, c'est bien aussi.
Ouais.
Tu vois ?
Non, mais
parce que voilà,
comme
tu veux,
aussi,
ouais,
hein,
tu ouais. veux toujours, tu dis, ah, c'est mieux ailleurs. Mais en fait, tu vois un peu autre chose et puis tu te dis, bah, on est quand même bien chez soi.
Ouais, ouais, ouais.
Et donc voilà, moi, j'ai toujours eu, voilà, une fois que je me suis lancée dans ma carrière, ce besoin aussi de revenir.
Ouais. À la maison.
À la maison, aux bases, ouais. À ma famille.
Où t'habites toujours, en fait, à Anglette,
voilà,
quoi.
Ouais.
On a quand même de la chance en France, je trouve, d'avoir des régions si diverses. Parce que, tu vois, tu parlais de l'Europe qui, en effet, n'est pas forcément hyper. Ce n'est pas une référence en surf, mais en fait, on est presque un des seuls pays, avec peut-être l'Espagne. Je sais pas, même si en Angleterre ils peuvent vraiment surfer, enfin en Allemagne non,
ouais.
Tous les pays qui sont qui n'ont pas d'océan, ouais. En fait ils peuvent pas, donc la France, on a vraiment cette chance de pouvoir faire et du ski à haut niveau et du surf à ouais. haut niveau et des sports de terre terrestre à haut niveau, tu vois, donc je me dis ouais, c'est vraiment cool quoi que t'aies eu cette chance que t'aurais peut-être pas
eu. J'ai grandi au bon endroit, enfin ouais. En tout cas pour ce que j'ai voulu faire de ma vie.
Ouais.
Mais non, c'est vrai que, alors mis à part cet aspect météo, l'hiver qui est un peu difficile, on a, en tout cas pour le surf, on a de superbes conditions.
Ouais.
Après voilà, on n'a pas une grosse culture dans ce sport comme peuvent l'avoir d'autres pays.
Ouais.
Mais
après tu t'entoures, j'imagine, de personnes qui sont dans ce milieu-là et qui
exactement.
On pense aussi, enfin
nous, ça a, moi ça a été nécessaire parce qu'on ouais. ne connaissait rien, donc sur plein de choses on savait pas comment s'y prendre,
ouais.
Mais oui non, c'est on a un bon terrain,
ouais. Et alors il y a forcément une question que je me pose, est-ce que tu as déjà eu peur ou est-ce que tu as déjà été confronté à un accident? Parce que je pense que c'est un sport qu'on... Alors, j'arrive pas à dire qu'on diabolise beaucoup, mais enfin, moi, je sais que je crois que j'ai jamais surfé. J'ai déjà fait du waveboard, tu vois, mais en fait, j'ai tellement peur. J'ai vu tellement de films, enfin, Les Dents de la Mer, par exemple, tu vois.
Ouais.
J'ai peut-être vu à 10 ans, donc déjà, le truc, ça te vaccine. Et bon, après, c'est... Enfin, d'un côté, je pense que
bon,
c'est...
Si tu veux venir surfer dans le sud-ouest, il n'y a pas de requins.
Il n'y a pas de requins, donc c'est déjà quand même pas mal du ouais. tout. Mais voilà, non, c'est vrai que c'est un sport à risque, quoi, on va dire.
Mais c'est l'aspect qui a été, entre guillemets, médiatisé, bon, peut-être dans les films, en effet, Jaws, peut-être les vagues immenses dans d'autres films. Mais au final, quand tu commences, c'est comme tout, tu commences dans des petites vagues, tu commences là où t'as pied, là où il n'y a pas de courant. C'est vraiment progressif et après, c'est une question de repousser, de sortir un petit peu de sa zone de confort à chaque fois, mais petit à petit, évidemment, et d'aller chercher ses limites, entre guillemets, sans que ce soit, sans que ça devienne quelque chose d'hyper dangereux. Y a plein de façons. Alors, il y en a qui vont chercher vraiment cette adrénaline et ces records, tout ça. Mais il y a plein de façons de s'éclater, en fait, en surf.
Ouais. Donc toi, t'as jamais eu d'accident
J'ai eu alors, des peurs, de gros accidents, non. Je touche du bois.
Attends-toi.
des petits trucs, j'en ai eu. Des peurs, oui, plein de fois, franchement. Des fois, des vagues un peu impressionnantes où tu te sens pas à l'aise, tu te retrouves au mauvais endroit, mauvais moment. Ça arrive assez souvent, puisque t'es toujours dans cette... sur cette tu vas chercher la limite, quoi.
Ouais.
Donc ça, oui, c'est sûr. Mais au point de me dire c'est plus pour moi ou j'arrête, non, c'est ça, ça a jamais été
Ce qui a l'air d'être assez puissant, comme tu dis, c'est que à chaque fois, si tu vas repousser un peu tes limites, c'est que tu domptes ta peur, en fait.
Ouais, en fait, si tu t'es dans cette situation là que derrière, bah, tu te fais, voilà, tu sors ta zone de confort et hop, sur ce jour là tu sors une belle vague. Waouh, c'est
gratifiant,
c'est hyper gratifiant. Donc tu vas chercher des sensations aussi.
Ouais.
Donc, ouais, c'est...
C'est assez dingue, vraiment, de me dire... ouais, là, ça fait 15 ans, quoi. Du coup, un peu plus, même, que tu surfes à fond.
Ouais, alors, ouais, c'est vrai. À un niveau, en tout cas, avec des ambitions et tout, ouais, ouais. Une quinzaine d'années.
Ouais.
Il se passe plein de choses. C'est pour ça, le cheminement, il est...
Ouais.
Il est différent et...
C'est hyper beau. Est-ce que tu peux nous parler, peut-être, de la défaite qui t'a le plus marqué et après, de la victoire qui t'a le plus marqué? T'as le droit de prendre le temps de réfléchir.
Ouais, des victoires, j'en ai... On se souvient plus des victoires, ouais. Hein, forcément.
Ah bon, on se souvient plus des victoires? Je pensais qu'on se souvenait
en
plus
fait,
des défaites.
En fait, non, c'est... Je sais pas, non, je sais pas. Moi, ce qui me vient facilement,
ouais.
C'est les moments forts.
C'est vrai, c'est vrai.
Mais alors après, je vais revenir sur cette fameuse année 2014. Alors là, c'est pas une défaite, mais c'est peut-être une succession. En fait, je vais aussi parler d'autre chose. Donc, il y a eu cette année-là.
Ouais.
Je me dis, pas mauvais résultat, vraiment grosse remise en question.
Ouais.
Me dire, mais est-ce que j'ai envie de continuer, quoi. Voilà. Déjà. Ça, ça te marque un peu quand même. C'est assez. Ça secoue.
Ouais.
Et après, alors en fait, un petit peu après, là, il y a. En 2016, on a su que le surf allait être au jeu. Donc ça, c'est devenu un objectif pour moi qui vraiment me tenait à cœur. Et en fait, au moment où les sélections s'intensifient un petit peu, notamment en 2019, je passe plutôt à côté. Et notamment voilà, sur une des dernières compètes où j'ai l'occasion de retrouver une place en équipe de France, je me foire. Et donc je suis pas sélectionnée. Derrière, ça compromet en fait mes chances quand même un petit peu de d'aller au jeu. Et ça a été une défaite hyper difficile. J'ai rarement été aussi secouée.
Ouais.
Et en fait, je pense que je m'étais mis tellement la pression avec ce nouvel enjeu. Que je suis passée à côté de ce qui pouvait faire ma force et à côté de mes vrais objectifs, tu vois, ces fameux objectifs où je me dis, j'ai envie de montrer tel niveau de performance. Je suis revenue dans un cercle un peu
de résultats
vicieux.
Uniquement,
ouais, voilà. Ouais. Et ça m'a beaucoup marquée. Et du coup, alors, c'est vrai que derrière, encore remise en question, on remet les choses à plat. Et on repart sur une nouvelle saison et j'ai réussi à redresser le truc. Donc oui, en ce sens, c'est une défaite marquante.
Ouais.
Mais en fait, je me souviens plus de ce que je me suis dit pour rebondir, tu vois, et les moments où j'ai réussi à rebondir que ce moment spécifique.
Bah tant mieux. J'imagine que c'est ça aussi qui fait la force d'un sportif ou d'une sportive de haut niveau. C'est de savoir pourquoi il y a eu des ratés. Et comme tu dis,
c'est
de ne pas les laisser se définir.
Ouais.
Et de rebondir, quoi. Ouais. D'être résiliente.
Ouais,
quoi.
Résilient. Et ce qui est dur aussi, c'est d'assumer, entre guillemets, tes erreurs, tes défaites.
Ouais.
Parce que, tu vois, au début, presque, voilà, tu te loupes. Enfin, tu veux plus en entendre parler, vite, on va de l'avant. Mais au final, quand même, revenir ta tête froide dessus et se dire, là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il faut travailler, tu vois? Qu'est-ce que tu vas faire pour pas que ça se reproduise, en fait? Parce que t'as pas envie de revivre ces choses-là.
Ouais, ouais, ouais.
Moi, c'est quelque chose que j'avais du mal à faire au début. Je voulais pas regarder les choses que j'avais mal faites.
Ouais,
ça.
Ouais.
Et parce que j'avais pas non plus un regard bienveillant sur ce que j'avais fait.
Ouais.
J'étais hyper dure, tu vois.
Tu t'en voulais, quoi.
Ouais.
T'avais cette exigence.
Je m'en voulais.
Ouais.
Mais comment j'ai pu... Enfin, c'est pas normal que j'ai fait d'avoir fait ces erreurs-là. Et alors que j'ai appris aussi à me projeter de façon différente. au lieu de me...
Ouais, de flageller. Ouais, mais ça, je pense que c'est tellement dur dans le sport de haut niveau. Ouais, c'est vraiment votre quotidien. Et c'est là où c'est hyper cool que tu aies réussi après à réaliser qu'il y avait d'autres aspects de ta vie qui comptent. Quoi,
parce alors, que... je dis pas que c'est acquis et que ça, tu vois, parce que chaque nouvelle expérience, eh ben, tout peut se passer. Tu peux retomber dans des choses où tu voulais plus aller.
Ouais.
Mais voilà.
Mais tu grandis un peu à chaque fois.
C'est
quoi.
Ça, exactement. Ouais.
Et du coup, alors, ta plus belle victoire maintenant, peut-être, ou celle qui t'a le plus marqué ?
Il y en a plusieurs, il y en a plusieurs.
Alors par exemple, plusieurs.
Bah, dernièrement, ça de m'être qualifiée pour les Jeux.
Trop cool.
Comme je te disais, tu vois, c'était mal parti,
cette
fin.
Ouais.
Et puis, tu vois, quand tu t'avances un peu en âge, tu te dis, bah mince, est-ce que mon
temps est passé.
Il y a des jeunes qui arrivent, c'est un nouveau challenge, mais donc voilà, faut arriver à garder le cap. Mais il y a toujours ces remises en question. Donc ça a été, ça a été quelque chose de fort. Et en plus, ça s'est joué sur une étape, donc c'était un environnement, c'était hyper stressant en fait.
C'était en France ou pas ?
C'était au Salvador.
D'accord.
C'est passé sur une compétition de 8 jours. Donc c'est long. Tu sais qu'il y a cette pression. À la fin de la compète, il y a celles qui vont se qualifier et celles qui vont être déçues.
Ah, c'est tellement dur d'arriver à se détacher de ça.
C'est cruel.
Jack Olanta.
Ouais, c'est comme ça. C'est...
À la fin, il n'en restera qu'un.
C'est pas les Hunger Games, mais bon.
Ouais.
Et donc, en fait, sur cette étape-là, j'ai fait ma bulle. Je me suis beaucoup enfermée en fait sur moi-même finalement pour essayer de... C'était tellement facile de tomber de se laisser distraire, de retomber dans des... De céder à cette pression quoi. J'ai vraiment eu besoin de m'enfermer dans ce côté un peu introspectif, un peu...
Ouais, te centrer sur toi.
Comme
quoi.
Dans un monastère, un peu, tu sais, pendant ces jours-là.
Ouais.
Me centrer sur moi complètement. Et à la fin, en fait, au moment décisif, je sais pas, j'ai réussi à me détacher, en fait, de l'issue.
Ouais.
À me dire, ça y est, on y est. Ça dépend de moi. Donc, ça, c'est une chance aussi. Enfin, c'est entre mes mains. Mais voilà, je suis. Entre guillemets, je suis OK, quelle que soit l'issue, quoi.
Ouais.
Et ça veut pas dire que si ça s'était pas bien passé, j'aurais pas été très déçue. Mais ouais, j'avais cette sorte d'acceptation à ce moment-là. Et
Juste dit, il faut que je donne le meilleur et c'est
voilà,
ce qui
compte, voilà, je reste, voilà. Il faut que je donne le meilleur, je me concentre sur mon truc. Être présente, faire les bons choix.
Ouais.
Et puis après, voilà, si les autres sont meilleures que moi, elles sont meilleures que moi. Enfin, voilà. Bon, c'est particulier comme... Ouais. Tu rentres un peu dans une bulle. Et...
Ouais.
Mais ouais, ça a été des moments assez forts. Et derrière, l'expérience jeu qui est quelque chose d'assez exceptionnel. Même si on est un sport tout nouveau dans ce milieu-là, qu'on connaît pas, qu'on n'a pas cette culture des jeux... C'est quand même quelque chose d'exceptionnel.
C'est pour 2024, du coup ?
Alors non, là, c'était cette année.
D'accord.
Donc là, quand je te parle, quand je me suis qualifiée, c'était en juin.
Ouais.
Et donc, je suis allée à Tokyo.
Ouais, OK. Qui étaient des jeux un peu particuliers, parce qu'il n'y avait pas de...
Exactement, aussi, ouais.
Ouais.
Et après, voilà, 2024, c'est un nouvel objectif, en fait.
Ouais.
Donc, qui arrive vite, mais c'est dans 3 ans, 2 ans et demi.
Ouais.
Donc, ça arrive très vite, mais il peut se passer aussi plein de choses. Donc,
ouais. Est-ce qu'il y a des outils qui t'aident aussi à gérer le stress, l'anxiété ? Parce que, pareil, j'imagine qu'on y fait face assez souvent, quoi, avant une compète, après une compète. Mmh. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont aidé de tes 15 années de pratique qui pourraient peut-être nous aider aussi ?
Il y a pas mal de choses. Alors, le fait déjà de mettre des mots sur ce que tu ressens, alors que ce soit en parler à quelqu'un ou les écrire... Tu vois, avoir ce côté, prendre conscience, en fait, de ce que tu ressens, ça, c'est un outil qui est fort pour moi. Alors après, si tu as un interlocuteur, faut que ce soit le bon interlocuteur, tu vois, qui va pas surenchérir peurs, tes stress.
Ouais.
Faut que ce soit quelqu'un de
en qui t'as vraiment
qui
confiance,
t'a confiance et qui est de bons conseils, évidemment. Il y a ça. Après, moi, j'ai des outils comme pour me recentrer, des petits enchaînements de yoga sur des routines, de méditation ou de visualisation. Qui m'aide pas mal et après ça c'est déjà des choses qui sont vraiment ancrées dans mes routines et après c'est l'aspect où tu acceptes un petit peu qu'il y a des choses que tu ne pourras pas contrôler. Mais toi, il faut juste t'assurer d'être prêt à faire face à ce qui arrive, quoi. En tout cas, c'est facile de se dire, et notamment en surf, on a cet aspect élément naturel, imprévisible, de se dire, si la vague n'arrive, si j'arrive pas à avoir la bonne vague, ou si elle est très forte, si elle fait une belle série, machin, tu te projettes, ça c'est un peu des spirales. Mais de se dire, j'ai ça à faire, en fait. C'est ça ma tâche entre guillemets
c'est ça ma quête.
Donc il faut arriver à se concentrer sur ça et autour de ça avoir quand même la lucidité de ton environnement et de s'y adapter. C'est quelque chose, c'est un ancrage aussi pour moi, d'être concentré sur ce que j'ai à faire et
de pas te laisser distraire par les autres et c'est sûr.
Après il y en a qui fonctionnent différemment, tu vois, qui ont besoin peut-être d'être dans l'échange, la rigolade avant, dans la légèreté plus, mais moi j'ai besoin d'être concentrée, en fait. Et je pense que des fois j'ai cette image un peu, tu vois, si tu viens me voir avant une compète ou quoi, je suis fermée, enfin.
Alors qu'on voit que tu l'es pas dans la vie.
Ça dépend des moments, en fait.
C'est bien de se connaître, en fait. Parce que t'as
des fois c'est mal interprété entre guillemets, mais c'est tout le processus de se connaître et de savoir ce dont toi t'as besoin.
Est-ce que dans le surf, il y a aussi la même rigueur au niveau... Alors j'imagine de la préparation physique, oui, parce qu'on en a parlé, tu en fais quand même beaucoup.
Ça dépend des gens. Ça dépend.
D'accord, t'adaptes en fonction... mais je parlais aussi, tu sais, de tout l'aspect alimentaire. C'est un truc que je me suis toujours dit, j'avais entendu sur un podcast un boxeur ou une boxeuse qui... Enfin voilà, on était vraiment à devoir peser ce qu'elle mange et tout. Moi je me dis, les contraintes que tu dois être prête à faire pour réaliser ton rêve, c'est l'abnégation, hein, mais...
C'est vrai que, le surf, on n'est pas un sport à catégorie de poids, comme peut l'être le judo, la boxe, où c'est vraiment très... au gramme près, hein. Dans tous les sports, si tu as... ton corps, c'est ton outil de travail, et ce que tu manges, forcément, ça va être... ça va avoir un impact. Alors, il y en a qui sont plus ou moins rigoureux sur ça. Moi, je sais que quand je mange sainement, je me sens mieux et je performe mieux.
Ça t'encourage à continuer,
Ça m'encourage à continuer. Après, faut aussi trouver l'équilibre. Plaisir, frustration, performance, quoi. Je sais que je mange sainement, il y a des choses qui me vont pas, tu vois. Mais j'ai des moments où j'ai envie de manger n'importe quoi. Souvent, ça correspond à des moments, tu vois, peut-être après une grosse compète ou après une saison, des moments où je peux me le permettre, finalement, avant de préparer la suite. Mais tu vois, ça, c'est... tu vois, j'étais plus rigoureuse avant. Et au final, de me dire, à certains moments... mentalement, j'ai besoin aussi de lâcher et de plus me mettre de contraintes. C'est mon équilibre, quoi. Donc il y a ça. Donc je dirais pas qu'on est le sport le plus rigoureux par rapport à ça, mais c'est vrai que de plus en plus en surf, on va rechercher. Il y a de plus en plus cette rigueur de l'entraînement, de faire attention à ce que tu manges, parce que le niveau s'élève, les enjeux s'élèvent aussi. C'est un sport qui est de plus en plus médiatisé. Et on se rend compte que chaque détail compte, au final.
Tu sens qu'il y a eu un changement à peu près quand parce que moi, j'ai l'impression que ma génération, on a toujours... j'ai l'impression d'avoir toujours vu cette communauté de surfeurs, tu vois. Qu'est-ce qui a participé, tu penses, à cette émergence, à cette reconnaissance aussi, au final, du surf dans le monde du sport?
Il y a plusieurs choses. Je pense que... je pense qu'il y a eu cette image un peu surf cool, hippie, on se prend pas trop au sérieux. Ouais. Même les surfeurs pros, on fait... On s'amuse, c'est voilà, plus détendu. Bah, comme je disais, le niveau a augmenté, la médiatisation, donc plus d'argent en jeu aussi. Ce qui fait que la performance entre de plus en plus d'importance. Ça a incité pas mal d'athlètes à avoir des méthodes plus pro, quoi.
Ouais.
Il y a ça. Même côté féminin, tu vois, si on parle du côté féminin, on a eu la World Surf League là, qui organise les compétitions. Ils ont aussi mis un coup de projecteur sur les femmes. On a des prize money égaux. Même dans la façon de raconter nos histoires, tu vois, ils nous ont mis en avant. Et ils ont mis en avant ce côté athlète.
Ouais.
Qu'avant, on était peut-être...
La surfeuse, c'était limite la meuf du surfeur, quoi.
Ouais, voilà, ouais. Peut-être, tu vois. Donc ça a été top. Et puis ça a permis aussi, peut-être, tu vois, une petite fille qui voit ça,
ouais.
D'assumer ce côté athlète aussi, tu vois.
Ouais, ouais.
Donc... Il y a plein de choses. Et alors, je pense qu'on est un peu dans la transition où le surf, il est de plus en plus pratiqué. C'est quand même encore considéré comme le sport loisir qu'on vient faire l'été, tu vois, quand on prend quelques cours en vacances. Et on commence à avoir vraiment cette image de surf, de sport professionnel aussi.
Ouais, ouais. Et ça, c'est cool parce qu'en plus, j'ai l'impression, mais dis-moi si je me trompe, que vous pouvez avoir des assez longues carrières par rapport à d'autres sports.
Alors, oui. Alors, en fait, là, moi, je suis un petit peu la génération où on voit ça, en fait. Des athlètes qui continuent assez longtemps. C'est vrai qu'on n'est pas un sport avec des gros impacts, de contacts, donc on se blesse peut-être moins que dans certains autres sports. C'est un sport où l'expérience, en fait, et la façon dont tu vas gérer mentalement, stratégiquement, a une grosse importance aussi.
Bon, ouais.
Tu me diras, comme dans tous les domaines. Donc ça permet aussi de continuer plus longtemps. Et ouais, c'est vrai que là, il y a des athlètes qui continuent vraiment au-delà de 30 ans. On le voyait un peu moins avant. On le voyait peut-être moins chez les femmes aussi, voilà, parce que on le sait, si derrière tu envisages une vie de famille, c'est difficile de faire les deux. Donc souvent les athlètes, elles choisissent peut-être de le faire de faire une chose après l'autre. Mais non, c'est vrai que
tu vois continuer encore pas mal de temps, quoi, parce que
moi j'aimerais bien continuer encore quelques années. Je sais pas, il faut que la motivation reste la même. Il faut que mon niveau j'arrive à maintenir mon niveau aussi. Mais voilà. Et puis c'est vrai que ce côté pro, tu vois, de fait de prendre soin de son corps, se récupérer, s'alimenter, ça aide aussi à
pouvoir continuer le plus longtemps possible. Parce que forcément, ça c'est... Moi, j'aime pas trop cette question dans le sens où il y a un peu ce truc qu'on pose à chaque fois aux athlètes. Et après, qu'est-ce que vous voulez faire, tu vois? Comme si ça avait une date de péremption. Enfin, non.
Tu sais faire quoi après?
Mais oui, c'est comme
et
si.
Et puis, c'est l'intonation en panique. Mais qu'est-ce que tu vas bien pouvoir faire?
Et puis, en plus, je trouve ça assez triste de penser direct à la fin, tu vois. C'est un peu déprimant. Mais d'un autre côté, c'est vrai que je me dis, comment est-ce que vous pouvez réussir à trouver.
Une nouvelle place.
En tout cas, enfin, d'ailleurs, c'est un peu le cas, je pense, aussi, même dans l'entrepreneuriat. Je déjeunais avec une entrepreneuse hier qui est venue sur ce podcast, Céline Lazorte. Tu vois, elle a bossé 10 ans dans la boîte qu'elle a créée, c'était un énorme succès. Ouais. Elle a revendu. Après, elle a une espèce de crise existentielle. Qu'est-ce que je
comment
suis dans ma boîte
aussi,
Et donc, en fait, c'est vrai que je pense qu'à chaque étape de vie où il y a un peu ce truc de changement, de page qui se tourne, comment on arrive à l'appréhender sereinement et est-ce que, tu vois, tu te, t'arrives aujourd'hui à te dire que tu pourras t'épanouir autant dans autre chose
C'est vrai que c'est une grosse interrogation, parce que quand tu vis quand même quelque chose qui te fait vibrer, enfin, mais ouais. vraiment, quoi. Donc, retrouver derrière un objectif qui va te prendre... c'est pas évident. Alors moi, c'est... Pour répondre à la question, qu'est-ce que tu vas faire ? C'est pas encore hyper défini, c'est quelque chose que... J'ai des pistes, on va dire. Tu vois, moi, je me rends compte que j'aime bien transmettre, en fait, ma passion. Ouais. J'ai aussi ce côté où je me dis... j'ai un vrai... Je vais utiliser le mot regret, qui est un peu fort, mais je me dis, punaise, ces choses-là que j'ai apprises, si quelqu'un avait été capable de me les inculquer, de me les faire passer à 12, 13, 14, 15 ans plus tard, j'aurais gagné du temps, j'aurais été meilleure, entre guillemets. Donc je me dis, ça me plairait, tu vois, de travailler soit des surfeurs ou autres, tu vois, des gens qui ont des... qui ont envie de progresser dans des domaines. Je trouve ça assez gratifiant, tu vois, de pouvoir accompagner des gens qui ont des objectifs. Donc voilà, ça, c'est une piste de réflexion que j'ai. C'est quelque chose qui, je pense, me plairait, bien que je n'ai pas d'expérience dans ce domaine-là, tu vois.
T'en avais pas non plus, entre guillemets, dans le surf, et puis tu prouves la pratique nous fait apprendre, quoi. Ça reste la plus belle des formations. Ouais.
Donc ça, c'est une piste. Comme je te dis, c'est pas très défini.
Non, mais tant mieux. En fait, c'est bien de le dire. Voilà. Je trouve, tu vois, t'arrives à pas être. Parce que, c'est chiant, je pense, d'avoir toujours en tête une potentielle fin. T'arrives à être vraiment au moment présent.
Mais en plus, tu vois, ce discours, on te le tient depuis que t'as 15 ans presque.
Ouais.
Oui, mais attention, les études, il faut assurer ses arrières. Il peut tout arriver dans le sport, que tu peux te blesser. Qu'est-ce que tu vas faire après ? Une carrière, ça dure pas longtemps. Ça, c'est des choses qui sont ancrées, que tu entends souvent.
Ouais. Est-ce que, je sais pas, mais est-ce que t'arriverais... Moi, je sais que j'ai le type de personnalité où j'en ferais une force, où je me dirais, mais tant pis, j'y vais quand même. Et vous allez voir. Enfin, ça peut aussi donner une espèce de rage de montrer que ça vaut quand même le coup.
Ouais.
Enfin, je sais pas, hein, c'est d'un côté, il y a ça. D'un côté, forcément, ça crée de la peur.
Ouais.
Mais parfois, je vois pas mal de sportifs, on leur dit qu'ils vont pas y arriver ou qu'il y a trop d'obstacles et ça leur donne juste plus de faim.
Oui, moi, je suis plutôt comme ça aussi, tu vois. Quand on me disait, mais toi, dans ce domaine, t'as des lacunes. Demain, je vais te montrer, tu vois.
Ouais. Tu vas voir, la lacune, elle sera plus là.
Ouais, voilà. Donc, c'est plus cet aspect-là. Après, ça va aussi dépendre à quel moment tu vas réceptionner ce message-là, tu vois.
Oui, c'est vrai.
Si t'es dans un moment où ça va pas très bien, t'es un peu en manque de confiance en toi, l'impact du message, il est pas le même.
Ouais.
C'est là où il faut trouver des forces, et les bonnes personnes, les bonnes ressources.
Ouais. Quand tu es vulnérable, c'est toujours plus difficile.
Ouais. C'est pas, tu vois, quelqu'un, moi, c'est la façon dont je le vois, tu vois. C'est pas quelqu'un, on va dire peut-être, lui, il a confiance en lui. Ben, c'est pas une vérité
absolue.
Indéboulonnable, c'est absolu, ou dans tous les domaines. Donc voilà, ça dépend.
Ouais.
Voilà.
Quel est le pire et le meilleur conseil qu'on t'ait donné ? J'ai bien posé parfois des questions un peu philosophiques.
Ah oui, c'est... OK, le pire et le meilleur conseil. Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, je pense, de me dire, la personne la plus importante pour toi, c'est toi, tu vois. Donc, ça a un côté un peu... pour moi... égocentré, entre guillemets, pas égoïste, parce que, en fait, voilà, dans les réflexions, c'est se dire si je suis bien dans mes baskets, je suis quelqu'un d'épanoui, entre guillemets, je vais aussi être une meilleure personne pour les autres, tu vois, pour les gens qui vivent avec moi ou qui m'entourent. Donc, ça, je trouve, c'est un truc assez fort de se dire ça. Après, il y a des limites à l'égocentrisme, on est d'accord.
C'est bien de le dire. Je pense qu'on est dans une génération qui l'admet. Enfin, tu vois, c'est même triste, je trouve, qu'on est toujours à justifier en disant des trucs comme ça. La personne la plus importante dans ta vie, c'est toi. Enfin, c'est ta vie, en fait. Franchement, je trouve pas ça égoïste. Ouais. Je trouve ça lucide. Et c'est important de le reconnaître pour faire ce qu'il y a de mieux pour toi.
Ouais.
parce que il y a rien de noble pour moi à,
et de
à faire
pas
passer
faire,
les
ouais,
autres à sacrifier quoi
ouais, en fonction des autres si c'est pas ce qui toi te convient
ouais,
quoi
ouais, et résonne avec tes valeurs ouais. tes envies ton bien-être
donc ça c'est en fait tu te dis ça coule de source
ouais.
mais dans la réflexion c'est pas toujours évident quoi
et dans la pratique encore
dans la
moins
pratique, ouais. et le plus mauvais voilà ça c'est difficile comme
parfois les gens me disent qu'ils en ont pas je la pose pas à chaque fois mais je me suis dit toi peut-être il y a des coachs ou des personnes que t'as rencontrées qui t'ont donné des conseils et avec leur recul tu te dis ben non en fait c'était pas pour moi ou j'aurais préféré qu'on me dise pas parce qu'on parle souvent des bons conseils mais rarement des mauvais et parfois les mauvais pareil si on te dit à un moment où t'es plus vulnérable ça peut avoir un impact
Bon, je vais pas, c'est pas un conseil en particulier, mais c'est plus à un moment donné, du coup, où j'étais très très vulnérable. Et j'essayais de trouver des solutions. J'ai eu en fait un interlocuteur qui a été assez dur, tu vois. Et à ce moment-là, ça a été assez destructeur, tu vois. Alors, c'était peut-être une façon d'essayer de me faire réagir.
Ouais.
Mais à un moment où j'étais où ma confiance était assez basse, ça a été destructeur. Donc ouais, ça tu vois c'est je le mettrai dans la case des mauvais ouais. des mauvais conseils.
Ouais, parfois manquer de bienveillance pour faire réagir les
c'est
gens
ça.
Quoi.
Ouais. ouais.
Super. Bon, on va arriver aux petites questions de non mais ça répond totalement à ma question et je pense que c'est important voilà de savoir prendre du recul sur ce que les gens nous disent aussi.
Mm-mm.
On va arriver aux petites questions de la fin. Est-ce qu'il y a une ressource, un livre, un film, un podcast qui t'a aidé et que tu aimerais conseiller aux personnes qui nous écoutent?
Alors ça, c'est pareil, c'est très changeant, mais c'est vrai que moi, je suis alors notamment dans des moments importants et forts. J'aime beaucoup, beaucoup m'inspirer de livres. Dernièrement, c'est... j'ai beaucoup aimé La Voix de l'Archer.
D'accord.
De Paulo Coelho.
Ouais.
Alors c'est assez court, mais c'est des... En fait, j'ai trouvé que presque tout ce qui se disait dans ce livre me parlait pour ma carrière, entre guillemets.
Ouais.
Je pouvais faire des parallèles vraiment. Et c'était... ça me parlait, ça m'inspirait. Et j'avais envie d'être sur cette longueur d'onde-là. Après, des ressources, ben, toutes celles dont j'ai cité avant, tu vois, ben, l'aspect assez introspectif. Au final,
ouais.
je trouve que c'est une grosse ressource ouais. d'arriver à comprendre en fait le pourquoi du comment on pense et réagit ouais. comme ça ouais. et des émotions, etc. Ça, c'est un gros outil. Voilà.
Qui est-ce que tu aimerais entendre si tu pouvais entendre quelqu'un au micro d'InPower ?
Qui j'aimerais entendre ? Il faut que ce soit.
Qui tu veux, franchement, les choix sont ouverts.
Wow, c'est difficile. Alors moi, j'ai tendance à regarder beaucoup les sportifs.
Bah tu peux, hein. J'en ai eu plusieurs. J'ai eu Yannick Agnel.
J'ai déjà écouté Yannick Agnel sur.
Ouais, c'est un des premiers que j'ai eu en plus. C'était hyper intéressant, je trouve. J'ai eu Isora Tibus, qui est une championne d'escrime. Olympique, là, elle a eu la médaille d'argent. Et j'ai eu. Enfin, c'est pas une. Si, c'est, je sais pas si c'est qualifié comme sport, mais une. Alexa Barrier, qui est navigatrice,
oui.
qui a fait le Vendée Globe.
Je vois, ouais.
Et c'est marrant parce que je trouve que pas mal de ce que tu dis résonne un peu avec.
D'accord. Ouais.
Avec elle, donc je vous mettrai l'épisode dans la barre de description si vous l'avez pas encore écouté.
L'aspect élément incontrôlable
ouais,
ça donne...
de l'océan.
Ouais,
il y a un point
rapprocher.
Commun, quoi.
C'est dur de... Il faut que ce soit un Français ?
Pas non, forcément. Non, pas forcément, franchement.
Là, ce qui me vient, en fait, à l'esprit, ça serait Novak Djokovic.
Ah ouais.
Alors,
ça,
qui est...
Sympa.
Bon.
Ça serait,
Djoko, ça serait
si
pas mal
bon.
En fait, non, mais juste par rapport à ce qu'il a vécu, tu vois, cette année, sa quête d'un grand chelem. Voilà, il avait grand chelem plus JO, plus, voilà, record.
Ouais.
C'est hyper intense, en fait.
Ouais.
Et voilà, je me dis, ben, quelqu'un comme ça, comment il voit les choses, comment il trouve des solutions.
Ouais.
Même si voilà, il est au top du top de sa carrière, de ce que peut atteindre un athlète, tu vois. Ouais.
C'est vrai que ce serait hyper intéressant. Écoute, tu me donnes l'idée. C'est génial.
Intéressant.
Et puis la dernière question, c'est la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie?
Prendre le pouvoir de sa vie. Ça peut amener des longs échanges aussi. Prendre le pouvoir de sa vie, pour moi, c'est déjà assumer ses envies, ses besoins, ses rêves aussi. C'est oser agir, tu vois, et se dire je vais atteindre ces rêves-là. Donc et c'est aussi je pense arriver à garder ce côté objectif, tu vois, mais bienveillant aussi, tu vois, lucidité en tout cas, de se dire c'est pas toujours si ça n'arrive pas, c'est pas toujours la faute des autres, ou c'est pas parce que j'ai pas de chance, mais voilà, être plutôt dans le si je veux y arriver, qu'est-ce que je dois faire, quoi.
Ouais.
Voilà, je trouve que c'est une bonne façon d'avancer. Et voilà, et les gens comme ça, je trouve qu'ils dégagent quelque chose. Et pour moi, voilà, ils dégagent ce fameux...
prise de pouvoir de leur vie.
Ce fameux pouvoir, voilà.
Génial. Bah écoute, merci beaucoup Pauline pour tous ces partages qui étaient hyper rafraîchissants, qui me donnent envie d'aller à Hawaï.
Mais tu peux venir si tu veux faire un petit surf dans le sud-ouest.
C'est vrai que c'est plus proche et ce sera l'occasion de redécouvrir la région. Pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent peut-être maintenant savoir plus sur toi, où est-ce qu'on les redirige, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux ou autre?
Moi, je communique pas mal sur Instagram.
Ouais.
Je mets pas mal d'images, je me confie aussi sur certaines choses. Voilà, c'est sur mon actu. Donc voilà, c'est le canal où je suis le plus active.
Présente. Ok, présente. Je mettrai ça dans la barre de description. C'est @paulinado, je crois.
C'est ça.
Super.
Exactement.
Et puis j'espère à très vite. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout, et pour cela, je vous dis un grand merci. C'est peut-être que l'épisode vous a plu, inspiré ou touché, et si c'est le cas, ça nous fait toujours hyper plaisir de voir vos stories en train d'écouter le podcast. Vous pouvez nous taguer @pauline.ado et @mybetterself pour que l'on puisse le voir et interagir avec vous. Si vous souhaitez écouter d'autres épisodes inspirants, vous pouvez vous abonner directement au podcast sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Et je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.